Cette année, pour fêter Noël en Église, nous proposons, en plus des beaux chants de Noël, en plus du vin chaud à Seskir la semaine dernière, en plus du beau spectacle des enfants de la semaine dernière, en plus du sachet des bonbons, en plus du concert choral gospel au Capitole, en plus de toutes ces belles choses, nous proposons aussi une réflexion historique et théologique sur notre foi chrétienne. Et pour cela, nous regardons le langage des anciens credos chrétiens qui nous aident à mieux préciser ce que nous célébrons à Noël lorsque nous disons que Dieu s'est incarné. Or, vous allez entendre parfois les théologiens dire que l'incarnation est un mystère, que la Trinité est un mystère. Mais il me semble qu'il faut utiliser ce mot mystère avec modération. Si tout est mystère, quel intérêt pour ma vie aujourd'hui? Comment comprendre la Bible? Qui est Dieu? Mystère. Qui est Jésus? Mystère. Comment être sauvé? Mystère. Vous voyez le problème. Il est vrai qu'un Dieu qui serait complètement compréhensible et cernable par nos cerveaux humains ne serait pas Dieu. Mais le Dieu de la Bible nous invite à le connaître toujours plus, à l'aimer, à comprendre sa parole et à enraciner notre foi dans sa révélation. Si on enrobe tout dans le brouillard du mystère, les hérésies et les erreurs aussi foisonnent. Alors heureusement, nous sommes bénéficiaires des débats, des discussions qui ont lieu au fil des siècles, à partir des textes bibliques pour savoir que croyons-nous? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qu'est-ce que l'incarnation? Qu'est-ce que la Trinité? Et Dieu a même utilisé les hérésies pour aider les chrétiens à mieux préciser leur foi, à mieux articuler leur foi, à mieux confesser leur foi, à mieux chanter leur foi. Et que vous le sachiez ou non, vous êtes bénéficiaire d'une rencontre qui s'est tenue dans la ville de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Et ce matin, donc, je vous souhaite un joyeux Noël de Chalcédoine. Comme il y a 15 jours, c'était joyeux de Noël de Nicée. Ce matin, nous allons revoir le credo, le symbole de Chalcédoine et son histoire. Comme j'ai dit, en 325 après Jésus-Christ, dans la ville de Nicée, toutes ces villes sont en Turquie actuelle, à côté d'Istanbul. En 325, il y a eu cette belle articulation de la vérité que Jésus est Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu, pleinement Dieu. Mais après, la question s'est posée aussi concernant son humanité. Nous, en tant que chrétiens, nous disons que Jésus est pleinement Dieu. Nous disons aussi qu'il est pleinement homme, comme nous sommes rappelés ce matin. Jésus est 100% homme, il est vrai homme. C'est aussi ce que nous célébrons à Noël, lorsque Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait chair, on parle de l'incarnation, on retrouve le mot chair dans ce mot incarnation. Mais comment maintenir ces deux vérités ensemble? Ça va être le défi pour les chrétiens des premiers siècles. Si nous disons que Jésus est pleinement Dieu, nous disons que Jésus est pleinement homme, mais concrètement, comment ça marche? Et comment articuler notre foi pour ne pas tomber dans l'erreur qui nie soit sa divinité, soit son humanité? Alors ce matin, je vous propose d'avancer ainsi. On va avoir des textes bibliques intrigants. Ensuite, un événement historique très ancien, le concile de Chalcédoine. Des mots théologiques importants qui nous ont un peu légués. Et puis une implication pratique très actuelle. Donc des textes bibliques intrigants. Un événement historique très ancien, des mots théologiques importants et une implication pratique très actuelle. Donc ce matin, je vais afficher les versets. Ils viennent d'un peu partout dans les évangiles pour rappeler qui est Jésus et notamment son humanité. Donc je vous lis ce verset déjà en Luc chapitre 2 qui raconte la naissance de Jésus-Christ. Et l'ange a dit au berger en Luc 2 verset 12, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Le Dieu Tout-Puissant, emmailloté, couché dans une crèche. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse. Matthieu 24, 35 à 36, Jésus dit plus tard, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure de mon retour, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, Jésus, ni le, mais le Père seul. » Donc Jésus dit que mes paroles ne passeront point, seul Dieu peut dire ça. Et dans le verset suivant, il dit, pour ce qui concerne l'heure de mon retour, je ne le sais pas. Ça, c'est intriguant, pour moi. D'autres versets intrigants, Jésus, Jean 4, verset 6, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, parce qu'il avait soif aussi. Jésus fatigué, le Dieu Tout-Puissant, fatigué. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Et puis Jean 19, versets 28 et 30, après, il est sur la croix. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit et il meurt. Et enfin, après sa résurrection, il va dire en Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un fantôme, c'est un corps humain en chair et en os. Voilà Jésus ressuscité. Donc, tous ces versets sont pour le moins intrigants. Jésus, en tant que vrai être humain, comme vous avez vu dans ces versets, a connu une naissance. Un bébé, il a fallu même l'emmailloter. Il a connu une croissance physique, une croissance aussi mentale, une croissance en sagesse. Il a connu l'épuisement, il a connu le sommeil, il a connu la faim, il a connu la soif, la tentation, les pleurs, les larmes. Il a connu la souffrance physique. En plus de ça, il a connu toute la gamme des émotions humaines, la colère, l'angoisse, la compassion, la joie, l'amour, le deuil, tout ça sans péché, mais il les a connus, avec leurs effets physiques, ça pouvant provoquer les larmes, même des gouttes de sang, fatigue, angoisse, stress. Et donc ça nous intrigue quand même dans ces versets, on affirme que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, mais après ces versets nous troublent parfois. Comment peut-on dire que Jésus grandissait en sagesse s'il est le Dieu infiniment sage? Comment peut-on dire que Jésus ne connaissait pas l'heure de son retour s'il est le Dieu qui connaît tout? D'ailleurs, il y a un verset en Jean qui dit tu connais toutes choses. Et puis peut-être, ça vous a, peut-être lorsque, si vous avez lu les évangiles pour la première fois, peut-être ça vous avait marqué, de même constater que Jésus prie Dieu. Mais si Jésus est Dieu, c'est quoi de prier Dieu? Donc il prie son Père. On le trouve Jésus constamment en prière. Quel intérêt pour Jésus, s'il est Dieu, de prier Dieu? Et puis, sur la croix, comment peut-on dire que Jésus est mort si on affirme qu'il est le Dieu tout-puissant, immortel, comme nous avons chanté encore ce matin? Donc, vous voyez, il y a quand même des mystères ou des dilemmes à résoudre dans ces versets qui explique pleinement l'humanité de Jésus. La tentation pour certains, ça va être de renier le fait qu'il soit Dieu. On a déjà traité ça là, à 15 jours. Mais d'autres vont avoir du mal à les garder ensemble. Donc il y a eu plusieurs tentatives de les garder ensemble. Dans un quartier difficile de Constantinople, ils ont trouvé cette fresque que je vous livre. Non, c'est pas ça. Mais il y a des personnes comme Apollinaire, Nestor, Eutychus qui ont proposé des manières de les tenir ensemble. Si je vous donnais les noms officiels de ces hérésies, je vais vous perdre, je pense. Donc, je les explique à ma manière. Tout d'abord, c'est Jésus transformateur. Donc, la question pour certaines, est-ce que Jésus se transforme un peu comme Iron Man ou Batman? C'est-à-dire, il est, à un moment, il est homme et puis se transforme en Dieu quand il a besoin d'être Dieu et puis se retransforme en homme quand il a besoin d'être homme. Donc, il y a eu différentes hérésies qui ont plus ou moins adopté cette conception, différents formats. Jésus était Dieu et puis il a basculé en tant qu'homme le temps qu'il était sur la terre et puis il est redevenu Dieu en repartant au ciel. D'autres vont dire Jésus est né comme un homme, et, mais il est devenu Dieu, par exemple, lors de son baptême ou lors de sa résurrection. Et donc pour beaucoup, et pour d'autres, sa divinité était comme un déguisement. Donc il était vrai homme, mais c'est en quelque sorte, il s'est revêtu de certaines capacités divines, mais il restait au fond homme à l'intérieur. Ou d'autres, son humanité était un déguisement, il était Dieu, et donc son humanité était juste une apparence, une apparition de Dieu. Mais ça ne colle pas avec les textes que nous avons lus. Selon un de ces personnes-là, quand Jésus marchait sur la plage, il ne laissait pas d'empreinte dans le sable. C'est très spirituel. Quand Jésus marchait sur la plage, il ne laissait pas d'empreinte dans le sable. Mais la réalité, c'est que non, il aurait aussi laissé d'empreinte dans le sable. Il mangeait. Une autre conception pour tenir Jésus homme, Jésus Dieu ensemble, j'appelle ça hybride, hein, comme un croisé. Là, c'est un mulet, là, vous prenez un cheval et une âne, vous les croisez, ça donne autre chose, ça donne un mulet. Et donc, pour beaucoup, Jésus était un croisé homme-Dieu. Donc, moitié. Et même, il y avait un débat, est-ce que c'était moitié-moitié? Est-ce que c'était deux tiers, un tiers? Bon, on n'en finit pas hein, avec... Mais vous voyez le problème, c'est qu'un hybride, c'est autre chose. C'est pas tout à fait un homme, c'est pas tout à fait Dieu. C'est quelque chose entre les deux, comme une voiture hybride ou un animal hybride. Le résultat est différent. Donc c'est difficile de dire qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu si on joue au croisement. Une autre conception dans ces hérésies, c'était ce que j'appelle Jésus siamois. Jésus était comme une double personnalité, un peu comme des jumeaux aussi à moi. C'est-à-dire deux personnes, ils sont unis, mais c'est deux personnes. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on arrive même à les séparer, donc on peut les séparer de manière chirurgicale. On sépare les jumeaux aussi à moi. Donc c'est quand même deux entités différentes. Donc, mais certains essayaient de concevoir Jésus comme ça, s'il était une double personne ou une double personnalité, comme un peu les acteurs qui ont leur doublure cascadeur. Donc, quand Jésus avait besoin de faire quelque chose d'impressionnant, voilà, c'était l'autre, l'aspect Dieu qui faisait ça. Et s'il avait besoin de faire quelque chose humain, mais là encore, ça tient pas compte de. On arrive à des contradictions dans les textes bibliques. Donc voilà un peu les idées qui circulaient. J'essaie de les résumer à ma façon. Mais ce qui prenait à cœur le texte biblique, vous voyez qu'il y avait des problèmes. Donc après, il y avait cette... Maintenant, on passe à l'événement historique ancien important. Avec ces différentes théories qui circulaient, ils ont trouvé que le credo de Nicée, qu'on a étudié 15 jours, ne répondait pas à toutes ces questions. Donc, ils ont refait une rencontre avec tous les responsables d'église, tous les évêques, tous les pasteurs. Et cette fois-ci, ça s'est fait à Chalcédoine en 441. Donc, Chalcédoine, c'est juste à côté de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Maintenant, la ville d'Istanbul a grandi de sorte que là où il y avait le concile, ça fait partie d'un quartier d'Istanbul. C'est l'autre côté, en face de Constantinople, sur l'autre rive du Bosphore. Et donc, ils se sont retrouvés là pour discuter de ces questions. Or, à cette époque, commence un peu la concurrence entre Constantinople, la ville de Constantinople, et la ville de Rome. Et chaque ville veut être un peu la grande ville impériale. Donc, un personnage important à cette époque, c'est l'évêque de Rome. Il s'appelle Léon. C'est un peu celui qui a inventé la papauté. Et lui, il ne vient pas au concile parce que ce n'est pas chez lui. Et d'ailleurs, il ne va pas être content parce que une des décisions du concile, c'est de dire que Constantinople est tout aussi importante que Rome. Et là, il n'est pas très d'accord. Mais toujours est-il, il envoie une délégation avec une lettre écrite au responsable de Constantinople qui s'appelle Flavien. Donc, Léon écrit une lettre à Flavien, et c'est vrai que dans cette lettre, on trouve des idées pertinentes et intéressantes. Les idées de cette lettre de Léon et les discussions qui vont suivre à Chalcédoine ont donné lieu au symbole de Chalcédoine, le credo de Chalcédoine, que je vais afficher maintenant. Vous allez voir que le symbole n'explique pas tout, toute la Bible, Mais le symbole fixe des limites, fixe des barrières. En fait, les symboles dans notre foi fonctionnent un peu comme les règles d'un sport, les terrains d'un jeu. C'est-à-dire, ça ne dit pas tout, mais ça fixe des... On sait quand on est hors jeu, quand on est en porte-à-faux avec le symbole, ces symboles qui ont été réfléchis. Il y a tout un travail collectif de réflexion. Et il faut dire que depuis, on n'a pas trouvé mieux pour articuler la personne de Christ. Donc, ça laisse un élément de mystère, mais ça enlève aussi des brouillards où les hérésies foisonnent. Donc ici, le symbole de Chalcédoine, 451. Suivant, donc les saints-pères nous enseignent tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité et au dernier jour le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul même Christ, Fils Seigneur monogène, monogène c'est le Fils unique, la phrase en Jean 3,16, « Fils Seigneur monogène, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne, une seule hypostase, mais en un seul et même Fils unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. » Je souligne quelques phrases clés qu'ils ont repris de la lettre de Léon. C'était Jésus reconnu, une seule personne reconnue en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Alors maintenant, peut-être je vous ai perdu un peu, mais on va creuser les mots-clés de ce symbole et mieux articuler, mieux comprendre notre foi. Donc les mots importants qui ont pesé lourd dans les discussions et qui nous aident quand même à comprendre les textes que nous avons lus, les textes intrigants que nous avons lus, s'y trouvent ici. Donc tout d'abord, il y a la notion de personne. Alors le mot est très basique, hein. En français on utilise partout, mais ce mot avait un poids dans les symboles. Nous confessons en tant que chrétiens un seul Dieu en trois personnes. Et puisque le mot fait penser à un être humain, une personne, ça fait penser des fois à un être humain, même si en français on peut parler d'une personne morale, vous êtes d'accord, ils ont précisé avec ce mot grec qui capte la même idée, ils ont précisé avec ce mot hypostase. Hypostase, c'est, pour mieux expliquer la notion de personne, hypostase, c'est une entité fondamentale distincte, donc une personne, pas deux. Comme dit le texte, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes. Donc vous voyez, pour ça c'est important parce que ça rejette les idées d'un Jésus siamois, d'un Jésus transformateur. On ne peut pas avoir deux personnes, c'est une seule entité, c'est un seul être, c'est une seule chose, mais chose dans le sens personne, un seul hypostase. Et ça nous aide à comprendre que Jésus, il n'a pas demandé à une doublure cascadeur d'aller sur la croix à sa place. C'était vraiment Jésus sur la croix. Ça nous aide à comprendre aussi que Dieu, que Jésus n'est pas identique au Père. Donc le Père est une autre personne, mais quand même un seul Dieu en trois personnes. L'autre mot important, c'était nature. Donc, ils ont dit une seule personne en deux natures, une nature divine, une nature humaine. Et donc, ils ont retenu ce mot nature pour décrire les attributs que Jésus avait, à la fois les attributs divins, à la fois les attributs humains. Il avait une nature humaine, une nature divine, avec des attributs qui leur sont propres. Et ça nous aide dans les textes bibliques. On peut savoir que souvent, l'une des natures du Christ est parfois vue en train de faire des choses auxquelles son autre nature ne participe pas. Donc quand on voit Jésus fatigué, on dit que c'est sa nature humaine qui est fatiguée, c'est pas sa nature divine qui est fatiguée. Quand Jésus dit « je ne connais pas l'heure », à ce moment, c'est sa nature humaine qui parle, sa nature divine pouvait connaître toutes choses. Et c'est pour ça que le texte est important dans le credo. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre étant bien plutôt sauvegardée. Donc on sauvegarde, on préserve, à tout moment on préserve les deux natures en une seule personne. Quand une nature se manifeste, ce n'est pas au détriment de l'autre, mais c'est en concurrence, en même temps que l'autre. Et le symbole disait, il ne faut pas les confondre et il ne faut pas les séparer. C'était très important de ne pas les confondre sans confusion et sans séparation. Un exemple, par exemple, de les confondre, c'est de penser que Jésus n'a pas vraiment été tenté parce qu'il est Dieu. Et souvent, on entend ça, même entre nous, on dit, ben, Jésus, on essaie de dire que Jésus est notre exemple, un exemple de lutter contre le péché, un exemple de sainteté. Mais facilement, nous disons, ben oui, mais il était Dieu, donc ça ne compte pas vraiment, hein, c'est trop facile. Mais c'est confondre, il avait une vraie nature humaine qui pouvait être tentée comme nous sommes tentés. Donc un exemple de confondre ces natures, c'est de dire, ben, oui, il était tenté, mais pas vraiment, parce qu'il était Dieu. Ça, c'est un exemple de confondre. Un exemple de séparer les natures serait de penser que Jésus aurait pu pécher dans ses tentations. Si Jésus aurait pu pécher, il perd la nature divine. Et là, c'est encore un problème théologique. Donc, c'est un défi, mais ni les confondre, ni les séparer. D'ailleurs, même nous, lorsque nous prenons la Sainte-Cène, par exemple, ce matin, nous croyons que Jésus est présent, mais nous avons une conception différente des catholiques, où je pense que les catholiques, même si on porte à faux par rapport au symbole de Chastel-Douane, lorsqu'ils pensent que Jésus est réellement physiquement présent dans les éléments de la Sainte-Cène. C'est confondre sa nature humaine et sa nature divine. Sa nature humaine n'est pas omniprésente partout, sa nature divine l'est. Mais si on disait que dans un corps, en chair et en os, il est présent dans les éléments de la Sainte-Cène, c'est dire que sa nature humaine est omniprésente, si c'est confondre les deux natures. Donc, et enfin, une autre phrase que je vous rappelle qui était importante, et je tiens à préciser, c'est la phrase Mère de Dieu dans la confession de foi. C'est dit, nous confessons au dernier jour, le même engendré pour nous et pour notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Littéralement, c'est qui a enfanté Dieu. Donc de la Vierge Marie, qui a enfanté Dieu selon l'humanité. Qui a enfanté Dieu, c'est un mot théotokos qui est devenu important et souvent traduit mère de Dieu. Alors, ça nous fait un peu peur là, en tant que protestant, mère de Dieu. Et par la suite, ça est devenu un problème. Mais à l'époque, comme je vous rappelle, certains disaient que Jésus a endossé la divinité plus tard, par exemple au moment de son baptême. Et donc, il voulait préciser contre une de ses hérésies que Jésus était Dieu dès sa naissance. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette union est sans changement. Jésus est le divin enfant dès sa naissance et ça ne va pas changer plus tard lors de son baptême ou lors de sa résurrection. Pour ça, j'aime bien cette petite phrase de Léon. Son humble berceau montre qu'il n'était qu'un petit enfant. Le chant des anges révèle sa grandeur toute puissante. Il est comme les hommes enveloppés dans des langes, lui dont l'impie Hérode conspire la mort, mais il est le souverain maître de tous les mortels, lui devant qui les mages viennent se prosterner avec joie. Donc il rappelle que dès sa naissance, il y a ces deux natures, et donc Marie a enfanté Dieu selon l'humanité, dit le credo, et on peut le comprendre. Le problème, c'est par la suite. On a oublié le contexte, on a souvent oublié de préciser selon l'humanité, et cette mère de Dieu est devenue, on a divinisé Marie pour, si on est mère de Dieu, forcément on est presque Dieu, ou Dieu plus, tu peux, pour enfanter Dieu, et là ça devient un problème pour la suite. Et d'ailleurs, ce concile de Chalcédoine, ça va être une des dernières fois où toutes les branches du christianisme reconnaissent ce credo. Après, on va commencer à voir les schismes où les uns et les autres vont quand même rappeler, des fois rappeler à revenir à la Bible, comme les protestants vont faire par la suite. Mais je termine avec une implication très actuelle. Pourquoi parler des credos anciens? On se dit aujourd'hui il ne faut plus être dogmatique. Mais sachez que notre époque a ses propres credos qui sont prononcés de manière très dogmatique. Un des credos modernes, par exemple, c'est « mon corps, mon choix ». Mon corps, mon choix, pour justifier certaines éthiques. Ou encore, un autre credo moderne, le genre est une construction sociale. Le smartphone est une méthode de catéchisme puissant qui répète aux jeunes à longueur de journée « ton corps est nul ». Et donc, j'aimerais appliquer ces credos anciens au credo moderne qui concerne notre corps et notre conception de la sexualité et notre identité. Selon un auteur, l'homme qui s'identifie comme une femme ou la femme qui s'identifie comme un homme déteste son corps. Le corps est considéré comme une source d'oppression et d'inauthenticité. Oui, il peut y avoir de nombreuses causes à la dysphorie de genre, mais tout se manifeste par une haine souvent intense du corps tel qu'il est donné. Alors ce matin, j'aimerais vous rappeler, si votre corps vous fait mal, si votre corps vous fait honte, si votre corps vous dégoûte, si votre corps semble freiner votre liberté, votre identité, Noël, c'est pour vous, le credo de Chalcédoine est pour vous, de se rappeler que Dieu a pris un corps humain. Ça change notre façon de concevoir le corps et notre identité. L'incarnation nous aide à soigner cette haine du corps moderne. Je rappelle que tout ce qu'a fait Jésus, il l'a fait dans un corps. Le corps que Dieu a voulu pour lui, le corps que Dieu a formé pour lui. Il y a même un verset, c'est la bouche de Jésus qui dit « Tu m'as formé un corps ». C'était un corps sujet à la fatigue, à la souffrance, à la honte, à la nudité. Mais Jésus a montré déjà que le corps en soi n'est pas mauvais. Lui, il est venu dans un corps sans péché, mais le corps en soi n'est pas mauvais. C'est une bonne chose, c'est une belle chose. Il n'a pas dit à Dieu, tu aurais dû me faire un ange, tu aurais dû me faire une femme, tu aurais dû me faire plus musclé. Non, il a accepté le corps que lui a donné, et puis donc il a valorisé le corps. Comme Boris disait tout à l'heure, l'incarnation montre que tout être humain a une dignité, une valeur, tout corps humain a une valeur, et le fait que Dieu a pris un corps le montre bien. Bien sûr, de nos jours, ce mépris, cette haine du corps est souvent en réaction à un abus subi, un rejet, une injustice, au péché, soit commis, soit subi. Mais là encore, le message de Noël, l'incarnation, est pour nous. Jésus est venu dans un corps sans péché, mais pour prendre nos péchés, pour nous guérir de nos péchés, de nos blessures, de nos traumatismes, de nos confusions identitaires, de nos culpabilités que nous vivons dans le corps. Jésus a pris un corps pour subir des conséquences à notre place, pour nous pardonner, pour nous aider à pardonner d'autres, pour nous aimer tels que nous sommes. Il a pris un corps comme le vôtre, comme le nôtre, pour dire je vous aime tel que vous êtes, et je suis là pour racheter non seulement l'âme et l'esprit, mais le corps. Et donc, dans un qui a discuté, Grégoire de Nazianze, il dit ceci: ce que Jésus n'a pas assumé, il ne l'a pas guéri. Mais ce qui est uni à sa divinité est également sauvé. Il parle de la chair humaine, du corps. Donc ce que Jésus n'a pas assumé, s'il n'a pas vraiment assumé un corps, il ne peut pas le guérir et le sauver. Mais ce qui est uni à sa divinité, c'est-à-dire une pleine humanité, est également sauvé. Donc c'est l'espoir pour nous. Notre humanité, même notre corps, sera un jour sauvé. Ce que Jésus montre, il s'incarne dans un corps. Il meurt dans ce corps, mais ensuite il ressuscite dans ce corps pour nous montrer que son projet, c'est de nous entraîner dans la même vie, dans la même résurrection, une résurrection, une restauration, une réparation de notre corps. Alors le cadeau ce matin, le cadeau de Noël, pour lequel je vous souhaite un joyeux Noël, le cadeau c'est le salut de tout notre être, esprit, âme, corps, ce que Jésus a bien montré en lui prenant un corps humain dans l'incarnation. J'espère que ce petit survol historique que nous faisons exceptionnellement cette année vous aide à mieux comprendre les textes bibliques, à mieux comprendre qui est Jésus. Il y a un élément de mystère et c'est là où notre foi doit agir, mais aussi un élément de compréhension, de réflexion, de précision pour éviter les hérésies, les erreurs qui ont pu parcourir les siècles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la reconnaissance que nous avons encore la Bible, nous avons l'héritage de nos ancêtres, de ceux qui ont été fidèles et qui aussi se sont plongés dans les Écritures pour savoir comment rester fidèles à celles-ci. Et ça nous aide, nous, à vivre. Et comme je vous ai montré, c'est pas que juste la théorie, c'est pas que juste l'histoire. Les credos anciens ont des applications très concrètes, très pratiques face aux credos modernes. Et je trouve que ce que nous offre Jésus dans son incarnation est bien mieux que ce que offre ce monde en disant ton corps est nul, où tu peux, il faut faire une abstraction pour être heureux. Non, Jésus montre une autre voie où nous pouvons être guéris, pardonnés et bien dans notre corps en attendant le nouveau corps qu'il est prêt à nous donner dans l'éternité si nous acceptons son salut. Que Dieu vous aide. Prions ensemble. Seigneur, merci pour merci pour ces réalités de Noël, merci pour l'occasion de les revoir plein de différentes façons. Pendant ce mois de décembre, nous pouvons les chanter, nous pouvons les méditer en famille, nous pouvons les célébrer autour avec des cadeaux, des repas. Tout ça nous rappelle ton amour envers nous, ta grâce, ta générosité. Nous pouvons aussi creuser ces credos anciens et donner un peu plus de précision et d'articulation à notre foi. Aide-nous à mieux comprendre ta parole, aide-nous à harmoniser l'ensemble, tous les textes pour nous aider à vraiment connaître le vrai Jésus, pas une Jésus de notre imagination, de notre invention, pas le Jésus des hérétiques, mais le Jésus qui s'est manifesté à nous dans sa parole. Et nous te remercions, qu'il est venu vrai homme, vrai Dieu, pour nous offrir un vrai salut, un grand salut, et nous voulons encore le saisir ce matin. Merci pour chacun ici, je te prie de bénir chaque cœur et nous aider à fêter Noël à ta gloire en marchant dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en son nom que je prie. Amen.